13h03 minutes, le point de presse du premier ministre du Québec, François Legault, va avoir lieu au cours des prochaines minutes. Il est aujourd'hui exceptionnellement à Montréal. Il sera aussi exceptionnellement accompagné de la ministre de la Culture, Nathalie Roy. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le bilan, il est très positif. Hein. Ça fait très longtemps qu'on... Très positif. Il n'y a rien de positif à dire que 20 personnes sont décédées, on s'entend là. Mais c'est beaucoup, beaucoup moins que ce dont, à quoi on est habitué normalement. On est maintenant à 4661 victimes. Il y a seulement 295 nouveaux cas, alors qu'on teste de plus en plus. Habituellement, on a vu souvent des journées à 1700, 800, 900, 295 seulement. Les hospitalisations qui sont en baisse de 13 pour atteindre 1185. Et les soins intensifs aussi en baisse de 8 pour être à 163. Donc, c'est une journée, sinon la journée la plus positive depuis plus de 2 mois. Donc, le premier ministre va avoir des bonnes nouvelles. J'imagine qu'il va nous reparler de ça dans son point de presse. Il y a aussi une autre nouvelle qui nous vient d'Ottawa cette fois-là. C'est que, vous savez que les aînés vont recevoir entre 300 et 500 $ supplémentaires. Ceux qui ont la petite pension, ça va être 300$. Ceux qui ont la grosse pension, ça va être 500$. Bien, on vient d'apprendre que les chèques vont commencer à arriver à compter du 26 juin prochain. Donc, ceux et celles qui attendent leur chèque, vous allez avoir ça le 26 juin. Il va falloir attendre encore 25 jours avant que les premiers chèques apparaissent dans votre boîte aux lettres. Donc, comme je vous disais, il y a 4 personnes aujourd'hui à la conférence de presse. Le docteur Horacio Arruda, la ministre de la Santé, Danielle McCann, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, et évidemment, le premier ministre du Québec, qu'on va rejoindre à l'instant.
Porte aujourd'hui, qui fait un petit peu un bec de canard, là. C'est un masque qui est fabriqué par l'entreprise Mod Jet Set, une entreprise de Normand Panton. Donc, c'est fait à Montréal, puis c'est vendu dans plusieurs magasins au Québec. Donc, j'invite les Québécois à porter soit ce masque-là ou un autre, mais si vous êtes capable d'en acheter un au Québec, faites au Québec, c'est encore mieux. Comme vous le voyez aujourd'hui, en plus du docteur Arruda et de la ministre de la Santé, j'ai de la belle visite, la ministre de la Culture, qui a des belles nouvelles à nous annoncer. Je veux aussi saluer dans la salle, je crois la reconnaître, Sophie Préjean. Non, non, gardez votre masque, c'est correct. Donc, la présidente de l'Union des artistes. Yannick Nézet-Séguin, notre grand chef d'orchestre. Et puis, on me dit aussi qu'il y a Luc Fortin, président de la Guilde. Il est là, donc, des musiciens. Donc, on va y revenir tantôt. Je veux d'abord dire un mot aux Québécois sur ce qui s'est passé aux États-Unis dans les derniers jours, là, la mort tragique de George Floyd. Évidemment, on a tous été touchés, là. Ceux qui ont vu la vidéo, de voir le policier qui met son genou sur la gorge, le pauvre George Floyd qui implore de le laisser respirer. Puis en plus, d'autres policiers à côté qui font rien. Là. Donc, c'est vraiment choquant, révoltant. Puis je comprends tous les gens qui ont été révoltés et je suis solidaire d'eux autres. Ça montre qu'on a encore du travail à faire pour lutter contre le racisme. C'est pas ça le genre de société qu'on veut au Québec. Et donc, comme premier ministre du Québec, là, je dénonce fortement, puis je demande à tout le monde de continuer. On sait que malheureusement, ça existe encore et il faut lutter contre le racisme. Tous les êtres humains sont tous égaux, sont tous pareils, donc peu importe la couleur de leur peau. Donc, c'est important de le rappeler. Bon, je sais qu'il y a eu une manifestation hier à Montréal. Je sais qu'à la demande du docteur Arruda, la grande majorité ont respecté le 2 mètres, ont fait ça dans la paix. Malheureusement, quelques casseurs ont brisé des vitrines, endommagé des commerces, volé des guitares, entre autres, on a vu ça. Ça, c'est inacceptable. Donc, ce bout-là, là, peu importe qu'on soit choqué, je pense pas qu'on aide la cause en faisant ça. Je veux revenir, bien sûr, avant de parler de culture, sur la situation dans nos CHSLD. Bon, vous allez le voir, ça, demain ou dans les prochains jours, on va ouvrir les inscriptions. On le dit depuis le début de la crise, on a depuis plusieurs années, là, peu importe les partis politiques, là, on est tous un peu coupables, travaillé dans nos CHSLD avec environ 10 000 personnes manquantes, 10 000. Et on les a compensées par des personnes pas nécessairement formées, qui ont fait leur gros possible, puis je les remercie encore. Mais là, on va lancer, à la mi-juin, une formation de 3 mois qui va être payée 740 $ par semaine pendant la formation. Puis ensuite, les gens vont commencer à 49 000 $ par année pour ceux qui vont travailler à temps plein. Donc, je lance un appel. Demain, on va vous donner probablement toutes les adresses, les centres de formation professionnelle où les formations vont se donner. Ils vont se donner en partie dans les centres de formation professionnelle, puis en partie dans les CHSLD. Puis je pense que on doit ça à nos aînés, là, d'avoir 10 000 personnes de plus formées qui vont rendre aussi les conditions de travail plus agréables pour ceux qui sont déjà là, puis qui vont permettre justement aux préposés d'avoir un petit peu plus de temps pour échanger avec les résidents, les résidentes. On aurait dû faire ça depuis au moins une dizaine d'années, 20 ans, mais bon, pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été passé en priorité par rapport à ce qui se passe, par exemple, dans nos hôpitaux. Donc, il est temps qu'on corrige la situation d'un CHSLD. Mais pour ça, j'ai besoin de 10 000 personnes de tous âges. Donc, je le répète, engagez-vous, 10 000 emplois là, pour changer, améliorer la vie des personnes qui sont vulnérables. Je reviens sur le bilan du jour. Bon, vous l'avez déjà vu. Heureusement, les indicateurs s'améliorent. Donc, moins de cas, moins d'hospitalisations, moins de décès. Ça ne veut pas dire que la bataille est gagnée. Donc, il faut continuer à porter le masque, respecter les consignes pour être certain qu'on ne revienne pas en arrière, pour être certain qu'on n'engorge pas nos hôpitaux, parce que justement, si on parle de nos préposés et de nos infirmières, ils ont besoin, comme on dit en chinois, d'un break. Hein? Ils ont besoin d'un gros break, et puis on veut leur donner, puis on va leur donner au moins 2 semaines de vacances de suite cet été, mais il ne faudrait pas qu'il y ait une nouvelle vague là en plein été. Donc, pour ça, le masque, on garde le 2 mètres. Donc, la situation étant meilleure, ça nous permet de continuer le déconfinement. Puis aujourd'hui, ben très content, puis un plaisir particulier de parler de culture. On le sait, puis je le répète souvent, la culture, c'est l'âme du peuple québécois. Les Québécois adorent leurs artistes et ils sont ennuyés de leurs artistes. Oui, on les a vus dans quelques pubs, puis j'en profite d'ailleurs pour les remercier. Il y a beaucoup d'artistes qui ont accepté de transmettre les consignes, entre autres du Dr Arruda. Je suis certain que ça a aidé à ce que les Québécois adhèrent aux consignes depuis le début. Donc, j'en profite pour remercier les artistes. Bien sûr, la situation a été difficile. On a juste à penser aux salles de spectacle, aux salles de théâtre. Et évidemment, là, bon, on travaille très fort pour réouvrir graduellement avec un certain nombre de spectateurs. On n'est pas encore rendu là, mais moi, je suis certain que nos artistes sont capables d'être créatifs pour continuer bientôt, là, dans les prochaines semaines, à ce qu'on voit nos artistes puis que nos artistes soient à l'œuvre. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que j'annonce aujourd'hui un projet ou des projets, un plan de 400 millions de dollars en culture. 400 millions, pour vous dire, là, il y a à peu près 150 millions, c'est du réaménagement de budget, mais il y a un 250 millions, c'est du nouvel argent. Donc, c'est de l'argent qui est en plus des budgets qui étaient déjà annoncés. Puis des budgets déjà annoncés, rappelons-nous, hein, même ça a l'air loin, juste avant le début de la crise, on avait annoncé un budget en culture qui augmentait de 12 %. Bien là, on rajoute 250 millions. Une partie qu'on a commencé à dépenser pour les organismes, donc 109 millions. Et le reste, bien, ça va être distribué selon des appels d'offres. Là. Nathalie va nous l'expliquer tantôt. Ça va être géré beaucoup par la SODEC. Mais j'ai demandé à SODEC de faire ça plus vite que d'habitude. Donc, plutôt que de prendre beaucoup de temps pour tout analyser, tous ceux qui ont des projets de prêt, là, c'est le temps de les déposer. Puis, donc, on a, disons, si on met le 100 millions de côté pour les festivals, les théâtres, tout ça, donc il y a un bon 300 millions qui est disponible là, pour toutes sortes de captations. Donc, ça veut dire des émissions de télévision, comme District 31, des séries télévisées, des films, des pièces de théâtre, mais qui sont captées, évidemment. On ne peut pas avoir des salles complètes. Des concerts, des projets de danse, des projets en musique. On sait qu'on est bon en musique au Québec. Des projets d'écrivains. Puis on veut aussi, vous allez le voir tantôt, Nathalie va vous l'expliquer, on veut aussi en profiter. Puis s'il y a un bon côté à cette méchante crise, c'est qu'on va regarder plus vite pour développer toutes sortes de plateformes numériques. Donc, pas seulement regarder nos artistes à la télévision, mais sur toutes sortes de plateformes. Donc, fait vraiment plaisir d'annoncer ce plan-là de 400 millions. Et puis, je sais pas si je devrais dire ça, mais j'ose le dire. S'il y en a pas assez, on regardera ça. Mais je veux que les projets, là, je le dis, les artistes, ceux qui ont des projets, là, c'est le temps de déposer ça, là, des projets de tout... type, là, on veut vous voir, puis on veut vous remettre au travail, puis on veut que les Québécois voient leurs artistes. Les remerciements du jour, en terminant, c'est la semaine des personnes handicapées. Je vois Sophie Préjean. On a Marilyn Picard chez nous, qui a un enfant lourdement handicapé. On le sait, la crise, c'était encore plus dur pour les personnes handicapées puis pour les parents d'enfants handicapés. Parce que là, on parle de déconfinement de certains commerces, de certaines activités, mais il faut se rappeler qu'il y a des personnes handicapées qui sont confinées à vie. Hein? Ça, c'est la triste réalité. Puis il faut tous se demander comment on fait, d'ailleurs, puis c'est une question qu'on devrait tous se poser, là, les propriétaires de commerces, toutes les activités pour donner un meilleur accès aux personnes handicapées. On a aussi Lionel Carman puis Jean-François Roberge qui travaillent sur toutes sortes de programmes de répit, des camps de jour pour les personnes handicapées. On fait une exception aussi partout là, pour peut-être que les normes du 2 mètres... attention à ce que je dis, je vais me faire chicaner, là. Mais en tout cas, c'est très important qu'il y ait des activités pour les personnes handicapées. C'est important pour les personnes handicapées, puis c'est important aussi pour les parents d'enfants handicapés, surtout qu'il y en a qui ne sont pas allés à l'école depuis un bon bout de temps. Donc, on réouvre aussi des classes d'enfants handicapés. On ne le dit pas aussi assez souvent, nos CHSLD, il y a peut-être 90 % que ce sont des personnes aînées, des aînés, mais il y a un 10 % ce sont des personnes handicapées. Puis vous savez, on va graduellement, on ne fera pas tout ça du jour au lendemain, mais on va remplacer les CHSLD par des maisons des aînés. Mais il y a certaines maisons, ça va être des maisons alternatives pour des personnes handicapées. Donc, c'est pas toujours correct, à mon avis, de mettre des personnes handicapées avec des aînés. Il y en a des jeunes qui ont besoin d'avoir un entourage qui est jeune, donc il y aura des maisons alternatives. Là, Marguerite commence déjà à en annoncer d'ailleurs. Donc, mes remerciements de jour, tous les enfants handicapés, toutes les personnes handicapées, tous les parents d'enfants handicapés, on pense à vous autres, puis on essaie de vous aider. En terminant, ben, je répète les trois consignes. On porte un masque. Même si ça peut être achalant, on va s'habituer un petit peu, puis ça va rester achalant. Mais pensez juste au personnel soignant. Je disais tantôt qu'il y a besoin d'un break, là. Si ça ne vous tente pas un jour de porter le masque, dites-vous que vous ne le faites pas pour vous, pour les autres, puis pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de personnes qui se ramassent dans nos hôpitaux, puis qui empêchent notre personnel de prendre un break cet été, d'avoir des vacances plus que mérité. Puis bien sûr, on garde le 2 mètres, on se lave les mains régulièrement. Donc, je compte sur vous. Merci pour votre appui. Good afternoon. First, I want to say a few words about the tragic death of George Floyd in the United States. As Premier of Quebec, I stand in solidarity with the people who denounce racial violence. We must continue to build a society free of racism. I want to thank the vast majority of people who respect the distancing measures and who wore a mask at the protests in Montreal yesterday. On the other hand, those who took advantage of it to loot and vandalize must face the legal consequences. Today, we have good news for our cultural industry. In the last months, our artists have largely contributed to spread the public health message, and they've kept our spirits up. But it's not easy for them, especially for performing artists. That's why we're announcing financial support, and our minister will explain it in detail. We're going in the right direction in our fight against the virus, but we must not let our guard down. If we don't want it to come back this summer, we all have to a role to play. We must continue to keep our distances, wash our hands, and wear a mask. And if you're thinking about stopping your efforts, think about the health workers who need a break. I'm counting on you all. Thank you. Sur ce, je passe la parole à la ministre de la Culture, Nathalie Roy.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Alors, vous devinez que je suis très, très contente d'être ici ce matin avec d'excellentes nouvelles, je l'espère, pour le milieu de la culture. Et je suis particulièrement fière de faire cette annonce en compagnie de notre Premier ministre. Également, j'aimerais souligner et saluer la présence, entre autres, de Mme Sophie Préjean, la présidente de l'Union des artistes, M. Luc Fortin, président de la Guilde des musiciennes et musiciens, et Maestro Yannick Nézé-Séguin, chef de l'Orchestre métropolitain. Vous devez avoir hâte de recommencer ici, vous, je sens ça. Alors, l'annonce que nous faisons aujourd'hui donnera, je l'espère, de l'espoir aux artistes du milieu culturel, de toutes disciplines confondues, pour qu'ils se mettent à créer et pour que vous puissiez recommencer à travailler dès maintenant. Alors, la pandémie, elle a tout arrêté. Alors là, on peut parler d'un nouveau départ. Nous allons donner aux artistes et aux artisans de puissants outils pour qu'ils fassent ce qu'ils font de mieux. Et qu'est-ce que c'est, ce n'est pas de créer. Notre budget historique en mars dernier, vous en souvenez peut-être, avait pour objectif de penser en dehors de la boîte, de donner aux créateurs des moyens qui répondent à leur créativité. Notre objectif était aussi d'encourager l'émergence et la création de contenus innovants. Et c'est là qu'on parle entre autres de plateformes, de nouvelles avenues informatiques. Aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie, on se rend bien compte que notre vision, elle est plus pertinente que jamais, puisque les artistes doivent s'adapter à de nouvelles réalités et faire les choses différemment pour entrer en contact avec le public. On n'a pas le choix, c'est la COVID qui l'exige. Mais s'il y a des gens qui ont toute la créativité nécessaire pour y arriver, pour relever ce nouveau défi, ben ce sont bien les artistes. Donc, pour les aider à créer et recommencer à travailler, je vous annonce que notre gouvernement porte à près de 400 millions de dollars son investissement dans la relance du secteur culturel. Notre plan porte donc les sommes dédiées à la culture à un niveau inégalé de plus de 971 millions de dollars, soit une augmentation de plus de 26 % par rapport au budget de 2019-2020. Voici maintenant les grands axes de notre plan. Tout d'abord, 91 millions et demi de dollars seront investis en production cinématographique et télévisuelle pour permettre, entre autres, à nos producteurs de faire des films avec plus de moyens et des séries télé à la hauteur de leur imagination. Nous accordons 71,9 millions pour aider les entreprises et organismes culturels qui ont dû fermer leurs portes au public pendant la pandémie. Nous investissons 50,9 millions pour soutenir les arts de la scène dans la création et la diffusion de spectacles innovants grâce à des appels à projets qui sont prêts, là, Monsieur le Premier ministre, pour poursuivre leurs pratiques en respect des nouvelles mesures sanitaires avec lesquelles ils doivent maintenant composer. 33 millions et demi de dollars iront à l'industrie de la musique et les artisans, ces artisans, pour qu'ils puissent, entre autres, relever les défis liés aux nouvelles habitudes d'écoute. Et naturellement, les défis liés avec ces fameuses mesures sanitaires qui sont désormais imposées. Par ailleurs, comme nos artistes et nos écrivains ont souvent des statuts très précaires, notre plan comporte aussi une aide spécifique pour eux de 6,5 millions de dollars afin de mieux rémunérer leurs œuvres. Une partie de cette enveloppe de 6,5 millions sera d'ailleurs dédiée à un fonds d'urgence et géré par l'Union des artistes et la Guilde des musiciennes et des musiciens. Pour ce qui est des festivals et des événements qui ont dû être annulés, on bonifie les aides existantes de 5,9 millions pour encourager la tenue d'événements en ligne, les programmes 100% québécois et les commandes d'œuvres originales présentées en première mondiale. De plus, on nous l'a demandé, il va de soi que nous investirons en publicité et en promotion pour relancer la culture québécoise, 13 millions de dollars. C'est important, on veut que les gens reviennent en salle. Par ailleurs, je vous rappelle qu'à la fin du mois de mars, et ça, ça a un petit peu passé dans le beurre, on ne l'a pas trop vu, mais nous avions consacré 59 millions de dollars en devancement de crédits aux organismes culturels. Ça veut dire que plus de 1000 organisations, des musées, des bibliothèques, des écoles en art, des théâtres et j'en passe, il y en avait 1000, ont déjà reçu 6 mois de liquidité. Toujours fin mars, nous avions aussi lancé un programme de 50 millions de dollars en prêts adaptés aux entreprises culturelles leur permettant d'assurer un fonds de roulement à court terme. Je vous annonce donc que notre plan de relance ajoute un autre 50 millions de dollars à ce programme de prêts de la SODEC qui connaît une grande demande. Plusieurs entreprises culturelles y ont souscrit et ça les aide beaucoup pour passer à travers. Notre plan comporte aussi plusieurs autres mesures, des programmes et des appels à projets qui sont entièrement nouveaux. Alors, je vous invite à consulter le site du ministère de la Culture et des Communications pour avoir tous les détails. Mais, Monsieur le Premier ministre, vous le disiez, ils sont prêts, ces appels à projets, ils sont prêts, ces programmes. Vous avez des idées, vous êtes nos plus grands créateurs. Votre créativité est reconnue partout sur la planète. Alors, postulez, souscrivez. L'argent est là pour vous payer, pour créer, en attendant de pouvoir revenir à la normale. Et comme ça peut prendre un petit bout de temps, on a mis de l'argent pour vous aider à y arriver. Maintenant, et comme je vous dis, le plan, il y a d'autres mesures, mais allez voir en détail, il y en a énormément. Là, on a d'autres bonnes nouvelles en ce qui concerne le décloisonnement en culture, parce que nous sommes toujours cloisonnés, ne l'oublions pas. Donc, je vous annonce que dès le 8 juin prochain, c'est l'industrie de la production audiovisuelle, de la pré-production à la post-production qui pourra reprendre ses activités, toujours en tenant compte des mesures émises par la Direction de la santé publique et en se conformant au guide de la CNESST qui a été spécifiquement créé pour ce secteur. Et je voudrais en profiter, Monsieur le Premier ministre, pour remercier à cette étape-ci Mme Préjean et Monsieur Fortin. Vous êtes ici, mais je veux vous remercier parce que ces guides-là, ils ont été élaborés par chaque secteur avec les représentants des secteurs, à la demande de ces artistes qui connaissent mieux que quiconque les aléas du métier. Donc, merci pour la collaboration parce que ça a bien été, le guide est là et vous avez aussi bien relayé l'information jusqu'à vos membres, et c'est ce que nous vous demandions de faire. Alors, merci, l'information descend et là, j'invite tout de suite les gens à aller consulter le guide pour savoir comment ça va se passer sur les plateaux de tournage, à la télé et au cinéma. Par ailleurs, les travaux se poursuivent toujours avec les autorités de la santé publique et la CNESST pour la réouverture des autres secteurs en arrêt. Là, je pense particulièrement à celui des arts de la scène et de la diffusion. Alors, il y a toujours des travaux qui sont en cours. Tout ça fera l'objet d'une autre annonce, mais je peux vous dire que on est confiant, là, je regarde le docteur Arruda, là, de pouvoir rouvrir les lieux de diffusion avant la fête nationale. Du moins, c'est ce qu'on espère. Évidemment, cette réouverture se fera avec un nombre restreint de spectateurs, on le comprend bien, pour respecter la distanciation sociale. Et tout ça se fera graduellement. Quel sera le nombre de spectateurs qui pourront entrer dans une salle? Je l'ignore, la santé publique nous dira tout ça. Mais tous les détails et la date officielle de l'ouverture des salles feront l'objet d'une annonce distincte dans les prochains jours. Donc, vous comprenez qu'on attend le feu vert de la santé publique. Le guide n'est pas encore complété, mais ça ne devrait tarder. Alors, en terminant, le but des mesures de relance annoncées aujourd'hui, c'est pas compliqué, c'est de donner au milieu culturel son élan avec des outils très puissants qui l'aideront à redéployer sa créativité pour émouvoir et nous rendre fiers comme vous êtes tous capables de le faire. Je voudrais profiter de l'occasion, moi aussi, Monsieur le Premier ministre, pour remercier le milieu culturel et les artistes pour leur patience, leur grande patience, et le public aussi. Les artistes et les artisans du milieu culturel qui nous ont divertis et accompagnés durant ce grand confinement. Merci pour tout ce que vous avez fait et on a tellement hâte de vous revoir en personne. On attend, mais on a hâte de vous voir. Alors, merci, merci pour tout. Bonne journée.
Merci, Madame la Ministre. Donc, on va débuter la période de questions. Il y a deux micros prévus à cet effet. Vu le nombre important de journalistes, on vous demanderait de vous limiter à une question par journaliste. On va commencer par Michel Jean de TVA Nouvelles.
Bonjour à vous quatre. Bonjour, Monsieur Legault. Bonjour, Monsieur Arruda. Bonjour, Madame la Ministre. Monsieur Legault, une question pour vous. Hier, on a une manifestation importante. On ne sait pas exactement, mais il y avait plusieurs milliers de personnes dans les rues de Montréal. Ça s'est bien passé dans la première portion, là, avant que les casseurs entrent en jeu. Mais quand même, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient déplacés dans les rues de Montréal pour dénoncer le racisme. Il y a à peine plus que 10 % des policiers, par exemple, au SPVM, qui sont issus des communautés culturelles. Il y a une étude qui, en 2019, a dit que il y a les gens des communautés noires, arabes, des Premières Nations aussi ont 4 fois plus de chances de se faire arrêter. Bref, on a visiblement encore un problème. Comment vous pensez qu'on puisse régler ce problème-là? Et avez-vous l'impression qu'on en prend vraiment la mesure à l'heure actuelle au Québec? Là?
Oui. Bien, je pense qu'il faut se dire la vérité. Là. Oui, c'est grave ce qu'on voit aux États-Unis. Puis je pense pas que notre problème soit aussi grave que les Américains. Mais en même temps, on peut pas dire qu'on n'a pas de problème. Il y en a des problèmes de profilage racial, manque de représentants dans les forces de l'ordre qui viennent des différentes communautés. Donc, on a encore du travail à faire. Puis je pense que ce qui se passe actuellement, ça nous rappelle tout le monde à l'ordre, puis de dire il y a encore des efforts à faire. Puis bon, évidemment, ça va venir des forces de l'ordre, que ce soit la SPVM, que ce soit la SQ. Mais moi, je sens quand même qu'il y a une amélioration, mais il y a encore du travail à faire. Donc, faut sensibiliser, faut cas par cas, pas en laisser passer un. Quand ça arrive, il faut le dénoncer, il faut aller au bout de chaque dossier.
On va y aller avec Marco Bellarcirino, Le Devoir.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Monsieur Legault, Madame Roche, je me demandais si le gouvernement comptait aider les salles de spectacle, les maisons symphoniques, de théâtre, de danse, qui pourraient organiser après la fête nationale des spectacles devant des salles, je dirais pas quasiment vides, mais avec un nombre réduit de spectateurs pour respecter les règles de distanciation sociale. Et Dr Arruda, est-ce que le plan de la ministre de la Culture de rouvrir les salles au plus tard à la fête nationale tient la route?
Vas-y, Nathalie.
Bon, alors, pour répondre à votre première question, actuellement, depuis le début de la pandémie, là, on collige absolument tout pour savoir, quelles sont les salles, où sont les salles, à quoi ressemblent effectivement les conséquences de cette pandémie, de cette fermeture. Actuellement, on travaille sur différents scénarios. Ce plan-là, c'est un début, c'est un gros début, là. Comme Monsieur le Premier ministre le disait, il y aura des ajustements à faire. À l'égard des salles de spectacle, nous voulons aider, parce que dans la mesure où la santé publique nous permettra de rouvrir à 50 ou 60 % une salle, donc on le prive de 100 % de sa capacité, il faut faire quelque chose. Alors, tout est sur la table à l'étude actuellement.
Bon, écoutez, on m'interpelle. Alors, probablement, dans un premier temps, je voudrais remercier tous les artistes qui se sont impliqués dans la transmission du message. Vous êtes des modèles pour notre société. Puis, l'art, ça fait partie de la vie. L'art, ça soigne l'âme, que ce soit en musique, en danse, en théâtre, en humour, tout ça est essentiel à notre société. Donc, je pense que vous êtes un service essentiel, mais qui a dû passer en séquence, si vous me permettez, derrière d'autres pour des questions de survie. On a besoin aussi de traverser. Je suis content de voir que les chiffres vont bien. Donc, on est dans une période où, je vous l'ai dit, critique dans la région montréalaise. Il faut continuer à respecter les consignes. Mais on travaille très fort avec toutes les entreprises depuis le début et aussi, je vous dirais, avec les gens qui sont des artistes pour être capable de réinventer, si vous me permettez, une façon de faire encore transitoire parce que le COVID-19 ne va pas disparaître. Même si ça va mieux cet été, il pourrait revenir. Donc, je pense qu'on fait tout tout, pour qu'à notre Saint-Jean, qui est notre fête nationale, on puisse peut-être recommencer de façon différente. Peut-être que ça amène ces défis-là, et je pense qu'on l'a travaillé en respectant les principes de distanciation, les bons principes d'hygiène, pour pas que non plus nos artistes tombent malades. Je pense que ce serait triste de perdre de nos artistes, particulièrement ceux qui sont à risque. Mais oui, je pense qu'il faut réouvrir cet élément-là. Il va nous permettre de nous ressourcer, à mon avis, pour affronter ce qui pourrait venir un peu plus tard. Là, je sais que j'ai l'air du rabat-joie en disant que ça va revenir, mais je sais que ça va revenir très probablement. Mais on va être mieux préparé et on va pouvoir peut-être continuer à profiter de la musique, de la danse, du théâtre. Et moi, je peux vous dire que j'ai hâte que mes abonnements soient respectés et que ce qu'on a manqué puisse être pris. Donc, on va travailler au maximum, mais comme je l'ai dit, il faut que ça ne reparte pas. Bien entendu, là, parce que si on recommence à avoir, donc respectez, s'il vous plaît, les consignes.
Philippe Bonneville, Cogeco.
Bonjour à vous tous. Ça fait exactement 3 semaines aujourd'hui que les écoles primaires sont rouvertes à l'extérieur de Montréal, évidemment. Plusieurs personnes avaient de très grandes craintes à la suite de cette réouverture-là. Quel est le portrait de la situation, tout d'abord, M. Arruda, au sujet de la hausse des cas? Est-ce qu'il y a eu hausse des cas chez les jeunes élèves, chez les enseignants, enseignantes? Et sur le même sujet, M. le Premier ministre, est-ce que, comme ça semble très bien aller, est-ce que vous regrettez un peu de ne pas avoir dit oui, finalement, et de rouvrir les écoles à Montréal jusqu'à la fin juin, avec le recul, avec ce que l'on sait présentement?
Il faut comprendre, premièrement, là, que les décisions qui ont été prises conjointement entre le premier ministre et nous-mêmes, avec une analyse. La situation montréalaise, juste pour vous répondre, n'était pas du tout la même qu'à l'extérieur. Donc, on était véritablement à un prêt niveau. On aurait peut-être pu rouvrir puis tester, mais le risque était beaucoup trop grand. Et je vous dirais aussi que l'acceptabilité de la population n'était pas au rendez-vous. Même en périphérie, les gens résistaient, mais actuellement, il y a eu à peu près, et je vous le dis, là, il va y en avoir des cas, là, une quarantaine de cas qui ont été rapportés dans le milieu scolaire. Et je tiens à vous dire, soit des professeurs qui avaient même été contaminés, je vous dirais, avant la réouverture lors des travaux, parce que ces gens-là vivent dans leur communauté, mais à la fois les parents, les enfants et les professeurs considèrent que c'est un succès. C'était un effort important parce que les mesures d'ouverture ont été mises en place avec des distanciations, etc., ce qui demande une adaptation très importante. Mais on est à réévaluer tout ça, à voir un peu comment va être l'expérience ailleurs, compte tenu que les enfants sont souvent peu malades ou comme tels, ben, peut-être que la réouverture de l'automne sera un peu différente, mais on regarde tous les scénarios par rapport à ça. Moi, je pense que à Montréal, compte tenu de la fragilité, compte tenu de tous les éléments qu'il y avait, compte tenu de la densité de population, hein, Montréal, c'est pas... Bon. On a beau dire, là, c'est une densité de population qui fait que les interactions sont plus importantes.
C'était le docteur Horacio Arruda, le point de presse du premier ministre du Québec, de la ministre de la Culture, de la ministre de la Santé qui vient de se terminer. Eh boy, je ne sais pas si vous avez entendu Nathalie Roy. Je comprends pourquoi ils ne l'ont pas envoyée en entrevue pour nous expliquer pourquoi elle avait classé l'église du Très-Saint-Sacrement au niveau du patrimoine. Je savais pas qu'elle était si mauvaise que ça. C'est-tu juste moi, là? S'il y a-tu des auditeurs qui vous avez trouvé ça pas écoutable, j'ai quasiment le goût de m'excuser. J'avais l'impression que c'était une lectrice de notes de fonctionnaire avec un vocabulaire à plus finir, puis du verbiage, puis du léchage. Puis là, on apprend que les artistes ont 25 % de subvention de plus. C'était pénible, le point de presse aujourd'hui. OK, on prend une courte pause. Restez là.